RCF.
Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, de plus nécessaire que le théâtre, disait Louis Jouvet. Peut-être que la meilleure preuve de la nécessité justement du théâtre, c'est son ancienneté, c'est de voir qu'elle est présente dans les sociétés les plus anciennes. Qu'il ait une fonction liturgique, politique, artistique ou qu'il soit un pur divertissement, le théâtre est présent de tout temps dans la plupart des sociétés. Olivier Spina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'Université Lumière Lyon 2. Vous êtes spécialiste de l'histoire du théâtre et plus particulièrement du théâtre anglais.
C'est ça, du théâtre dit élisabétain, donc William Shakespeare, Ben Jonson, ceux qu'on connaît.
Je disais pour commencer ces entretiens que le théâtre est présent dans les sociétés les plus anciennes. Est-ce qu'on en a des traces et si oui, lesquelles ?
Alors, pendant très longtemps, les deux traces principales que l'on a mobilisées pour faire l'histoire du théâtre antique, c'est l'archéologie. Bien évidemment, lorsqu'on se rend aujourd'hui à Athènes ou à Rome, il y a encore ces grands bâtiments, les théâtres, amphithéâtres et théâtres, qui nous montrent les scènes, qui nous montrent les gradins, qui nous montrent comment les gens étaient installés, comment on pouvait entendre ce qui se déroulait sur scène. Donc il y a beaucoup d'études qui se sont faites à partir de l'archéologie et bien sûr les textes, les rares textes que l'on ait conservé du théâtre antique. Je crois qu'on les connaît tous, les auteurs grecs, antiques, Aristophane, Échille, Sophocle, Euripide.
Ça nous dit quelque chose.
Voilà, mais on est bien en peine d'aller beaucoup au-delà. Et encore, la déperdition de textes par rapport à ce qu'ils ont écrit, ou en tout cas ce qu'on sait qu'ils ont écrit, est fantastique. C'est-à-dire qu'on a peut-être conservé une dizaine de textes, mais on sait qu'ils en ont écrit plus d'une centaine.
Dans l'imaginaire, en tout cas, on a le sentiment que le berceau du théâtre, c'est la Grèce antique. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, le théâtre tel qu'on le connaît ou tel qu'on l'imagine a effectivement son berceau dans la Grèce antique. On va dire le 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes avant tout. Ce qu'on s'imagine souvent, c'est des acteurs qui jouent un texte devant un public. Eh bien ça, effectivement, dans la Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ, on a ça, mais dans un cadre religieux, dans un cadre liturgique. Il y a de grands concours, par exemple à Athènes, les Dionysies, qui sont l'occasion de concours de pièces de théâtre, de concours de tragédie, de concours de comédie, qui sont donnés devant des spectateurs, devant les citoyens, qui ensuite vont, certains d'entre eux vont voter pour décerner un prix à l'acteur, mais aussi à l'auteur.
Mais alors, une fonction liturgique, c'est-à-dire, c'est un rituel et on offre ça aux dieux ?
C'est un peu ça. C'est-à-dire que dans le cadre d'une grande célébration religieuse, par exemple pour les Dionysies, c'est donc, comme son nom l'indique, un culte à Dionysos, on a des chants, des concours de chants, des concours de musique, des processions, des sacrifices et aussi des représentations théâtrales et un concours théâtral sont organisés par des magistrats qui ont toujours aussi une fonction religieuse, puisque le politique et le religieux sont mêlés. Et en fait, assister à ces concours, c'est une espèce de mise en scène de la communauté politique et religieuse qu'est la cité athénienne.
Ça s'adresse à qui ? Qui est le public ? Est-ce que c'est n'importe quel citoyen ou bien il s'agit vraiment de personnages triés sur le volet, l'élite en quelque sorte ?
On va sans doute en reparler beaucoup dans cette série, la question du public. Comme je vous le disais tout à l'heure, on sait beaucoup de choses par le biais de l'archéologie et par le biais des textes, mais on sait finalement peu de choses sur son public. Alors, pour ce qui est de la Grèce antique et d'Athènes, on sait que ce sont les citoyens qui se rendaient à ces spectacles. Et à Rome, ce sera la même chose. En général, rangés selon une hiérarchie sociale, c'est-à-dire que plus vous êtes proche de la scène, plus vous êtes haut dans la hiérarchie, mais après, il y a beaucoup de débats pour savoir, est-ce que les femmes ont droit d'y assister ? Est-ce que ce qu'on appelle les métèques, c'est-à-dire les étrangers non citoyens, ont droit d'y assister ? Etc. Il semble que, par exemple, dans le cadre de concours que j'évoquais, comme les Dionysies, seuls les citoyens vraiment avaient un rôle un peu actif dans cela. Donc, on va dire que c'est pour l'ensemble du corps civique, vraiment. C'est pas quelques happy few.
Est-ce que on connaît les différents registres, justement? Est-ce que il n'y a que de la tragédie? Est-ce que on peut aussi avoir des représentations plus comiques, plus divertissantes?
Ah, complètement, complètement. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, comme je le disais dans ce fameux concours des Dionysies, on a un concours spécifique pour les tragédies, tout ce qu'on peut imaginer, et d'un autre côté, on a aussi un concours pour les comédies. Aristophane, avec des comédies qui ne sont pas que des comédies fondées sur des jeux de mots, mais un vrai comique de situation, avec un vrai rire. Et il semble qu'il y ait des acteurs qui soient spécialisés dans un registre et pas dans l'autre, hein, comme on aura plus tard.
Ça inclut des chants, une mise en scène, de la danse par exemple ?
Il faut bien comprendre que le théâtre, nous, là encore, ce que l'on a conservé, c'est les textes. Et donc pendant très longtemps, on s'est dit, ben voilà, le théâtre grec, c'est le
déclamer
texte.
Déclamer
un texte. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a toute une mise en scène, hein, puisqu'il y a un chœur, hein, par exemple dans la tragédie, qui chante, hein, sans doute. Il y a de la musique, on sait qu'il y a des costumes. Ils ont des masques, évidemment. Le fameux masque de la tragédie, le masque de la comédie. Il y a une mise en scène. Le problème, c'est qu'elle nous échappe en grande partie, parce que ça n'a pas vraiment laissé de traces. Parfois, par le biais d'autres textes qui évoquent le travail de l'acteur ou du dramaturge, on peut savoir quelque chose. On sait que c'est un vrai spectacle. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une déclamation un peu morne d'un texte. Mais savoir exactement ensuite ce qu'il y a dedans, c'est beaucoup plus compliqué. Mais musique, mise en scène et paroles déclamées, les trois sont toujours ensemble.
Voici ce que m'a révélé le dieu.
Extrait de Œdipe roi de Sophocle.
Phoebos nous ordonne clairement de chasser du pays la souillure nourrie sur ce sol, de ne plus la nourrir, cette souillure, autrement elle deviendrait incurable.
Et par quelle purification, de quel mal s'agit-il ?
Par le bannissement d'un homme, ou en faisant payer meurtre pour meurtre, puisque c'est ce sang qui pourrit la ville.
Quelle est la victime ? De qui parle l'oracle ?
Prince, nous avions jadis Laios pour roi, avant que tu ne diriges toi-même la ville.
Je l'ai entendu dire, mais je ne l'ai jamais vu de mes yeux.
Il est mort, et c'est pourquoi le dieu nous ordonne clairement de punir ceux qui l'ont tué.
La suite de l'histoire.
Bon, là, on a beaucoup parlé du théâtre grec. Est-ce que dans la Rome antique, le théâtre tient une place aussi importante qu'à Athènes? Et est-ce qu'il en est en quelque sorte l'héritier?
Alors, il existait, on sait qu'il existait une forme, des formes théâtrales dans la Rome antique, hein, la Rome des rois et ensuite la République, le mime, les pantomimes. Mais on sait aussi qu'après la conquête de la Grèce par Rome, eh bien, les Romains ont récupéré ce système dramatique grec, on va dire, avec la tragédie, la comédie. Et à Rome, comme en Grèce, eh bien, on va construire des théâtres, là encore construits par les magistrats, par la puissance publique, et on va organiser des spectacles qui vont être, là encore, offerts aux citoyens romains, comme, là encore, une liturgie, comme un cadeau fait aux dieux et en même temps au peuple romain.
Est-ce qu'il faut dissocier le théâtre, Olivier Spina, des jeux du cirque et des gladiateurs, par exemple? Est-ce que ce sont deux registres totalement différents ou bien il y a quand même un lien?
Vous trouverez peu d'historiens qui, en général, travaillent sur les deux objets. Le théâtre et, effectivement, les gladiateurs, les nomachies, c'est-à-dire les combats organisés entre bateaux au sein du Colisée, par exemple. Mais en fait, c'est la même logique, c'est-à-dire un spectacle qui est offert au peuple romain. Hein, c'est le fameux le pains et les jeux. C'est l'idée que pour un citoyen romain, il faut qu'il ait de la nourriture, le pain, mais il faut aussi qu'il ait un divertissement, hein, qui montre aussi qu'il appartient au peuple romain et qu'il reçoit quelque chose de ses magistrats. Et donc, oui, c'est, on va dire que le théâtre, ce n'est qu'un aspect de cette politique, on va dire, de patronage des spectacles. On va offrir du théâtre, on va offrir de la musique, on va offrir des chants, on va offrir des combats de gladiateurs, on va offrir des spectacles dans la Rome antique.
Je dis, aujourd'hui, tu verras Agamemnon mourir.
Extrait de l'Orestie, d'Eschyle.
Malheureuse,
malheureuse, tiens ta langue.
Et pourtant, il n'y a pas de remède à cette parole.
Oui, si elle se réalise. Mais elle ne doit pas se réaliser.
Toi, tu pries, les assassins agissent.
Comment s'appelle l'homme qui commet cette atrocité? Qui est cet homme?
L'acoustique est parfois étonnamment bonne dans de vieux théâtres. Je pense au théâtre d'Orange, par exemple, dont la réputation est que l'acoustique est excellente. Les Romains, par exemple, avaient compris déjà de cet aspect-là ?
Ah, complètement. Effectivement, des études ont été menées sur cette acoustique, justement. Par exemple, dans le théâtre qui a été conservé à Leptis Magna, c'est en Libye, un théâtre romain, des études ont été faites où on va murmurer quelques phrases sur la scène et on va poster à différents endroits des gradins des gens qui vont noter les phrases qui sont dites. Et il n'y a aucune différence entre ce qui est dit et ce qui est entendu, quel que soit l'endroit où vous êtes. Ça veut dire que, effectivement, les Romains étaient passés maîtres dans l'art acoustique, vraiment que le bâtiment soit pensé dès le départ pour que l'acoustique soit excellente. L'acoustique est aussi voir les choses, puisque la pente des gradins est aussi pensée pour que chacun puisse bien voir ce qui se passe sur scène.
On est à Lyon, le théâtre antique n'est pas très loin de nos studios, ça en est un exemple intéressant ?
Oui, tout à fait. Il faut aussi bien différencier deux choses, c'est que finalement, le bâtiment qui accueille des spectacles théâtraux et des spectacles musicaux est peu différent. Son organisation est très similaire. Là encore, sans doute parce que dans le théâtre, il y a aussi de la musique, il y a aussi des chorégraphies. Et donc, entendre et voir, c'est ça le théâtre. C'est pas seulement le texte. C'est ce que nous disions en ouvrant ce débat.
Merci beaucoup Olivier Spina, et puis on vous retrouve demain pour poursuivre.